Bonjour. Je vais commencer par la prière. Bien Père, nous te remercions pour ta parole et nous te prions que nous soyons guidés, transformés par elle ce matin. Apprends-nous à mettre notre confiance en toi et dans cette parole qui est une puissance, Seigneur, la puissance pour le salut de quiconque croit. Et que tu nous guides, que tu nous éclaires par ton Saint-Esprit ce matin pour la comprendre, nous te prions. Amen. Alors, quelque chose au plus profond de nous-mêmes, en tout cas au plus profond de moi-même, c'est cette tendance à s'attribuer à nous-mêmes, à s'attribuer à moi-même tous les bénéfices de ce que Dieu nous donne. Et pour ça, je vais vous donner une petite blague que j'ai, qu'on m'a dite la semaine dernière et qui finalement colle assez bien avec ce que je veux dire par là. C'est un homme qui prie Dieu. Il prie Dieu pour qu'il agisse envers lui. Donc le voilà qui prie Dieu. Et puis le lendemain même, eh bien cette chose arrive et sa prière se réalise. Après avoir prié donc Dieu la veille pour que cette chose se réalise. Et donc le voilà qui prie à nouveau Dieu. Et voilà comment il prie. Seigneur, c'est bon, j'ai réussi à le faire moi-même. Tu n'as plus besoin de répondre à ma prière. Et voilà cette tendance, n'est-ce pas, à s'attribuer à soi-même les bénéfices de ce que Dieu nous donne, au lieu de rendre gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait, parce que Dieu a répondu à sa prière. Voilà cet homme eh bien, qui s'attribue à lui-même eh bien, la réponse de cette prière. Et si je regarde à moi-même dans ma vie, eh bien, combien de fois j'ai eu cette attitude ? Et souvent, il faut que je sois dans l'épreuve, dans une impasse apparente, dans une voie sans issue, dans la détresse, pour placer véritablement ma confiance en Dieu, pour crier à lui, pour qu'il me délivre. Et c'est sans doute votre expérience aussi dans la vie chrétienne, que c'est souvent dans ces situations-là, dans des impasses qui nous semblent des impasses concrètes, eh bien que nous crions à Dieu, que là nous sommes bien obligés de placer entièrement notre confiance en Dieu, et c'est là que Dieu répond. C'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se révèle. Et nous allons lire dans 2 Corinthiens au chapitre 12 et les versets 1 à 10. Et c'est page 761 dans nos Bibles. Page 761. Et je vais le lire. Faut-il se vanter ? Cela n'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps ? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps ? Je l'ignore, mais Dieu le sait. A été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables, qui n'est pas permis à un homme de redire. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, J'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car c'est quand je suis faible que je suis fort. » La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. C'est quand je suis faible que je suis fort. Alors comment est-ce que l'apôtre Paul peut-il arriver à prononcer une telle contradiction ? Et pourquoi la prononce-t-il ? Et la première partie du passage paraît bien difficile. Et on va essayer d'essayer d'éclaircir ce passage. Mais on voit l'objectif de Paul. Hein. Où est-ce qu'il veut nous amener, Paul, dans ce passage ? Et c'est ça que nous devons retenir à la fin. Il veut montrer que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Et avant de voir cela, c'est ce que nous allons voir, il va falloir qu'on surmonte deux difficultés là dans le texte. La première, c'est que Paul parle d'une étrange expérience qu'il a vécue. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cette expérience ? Et la deuxième difficulté, c'est qu'il parle d'une écharde qu'il a reçue dans son corps. Alors, pourquoi parle-t-il de cela ? Qu'est-ce que c'est que cette écharde ? Et ce qui va nous aider, là, bien sûr, c'est de voir le contexte de la lettre, le contexte plus large de la lettre de Corinthiens, qui va déjà nous aider à voir pourquoi Paul parle de cela ici. Alors Paul écrit donc sa seconde lettre à l'église de Corinthe, et on va voir qu'il va faire allusion à un problème dans cette église. Et d'ailleurs, il fait allusion de ce problème au verset 11, juste après ce passage. Dans cette église, il y a des super apôtres. Alors ces super apôtres, c'est des personnes qui se sont introduites dans l'église de Corinthe et cherchent à s'y imposer, à prendre le pouvoir par la séduction. Et ils mettent en avant donc leur charisme, certainement les expériences très fortes qu'ils ont vécues. Et bien sûr, Paul utilise ce terme de super apôtre de manière ironique au verset 11, mais il utilise aussi ailleurs le terme de faux apôtres à leur sujet. Et ces super apôtres sont très fiers d'eux-mêmes, et en particulier de leur prouesse oratoire. C'est des gens qui s'expriment bien. Et par contre, ils se moquent de l'apôtre Paul. Ils se moquent de l'apôtre Paul qu'ils considèrent comme un faible. Et ils reprochent à Paul, entre autres choses, de manquer d'éloquence, de manquer de charisme. Et c'est ce qu'on voit au chapitre 10, au verset 10. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. Ça, c'est ces super apôtres, ces faux apôtres qui parlent de l'apôtre Paul. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible. Et sa parole est méprisable. Et ce manque d'éloquence que ces gens critiquent envers Paul, eh bien c'est un signe vraiment de faiblesse dans le pays, la Grèce, là où se trouve Corinthe, qui était habituée aux beaux parleurs, aux discours sophistiqués, avec toute la tradition des grands philosophes derrière elle. Et donc dans ce passage, aujourd'hui, Paul est en train de répondre aux attaques de ces super apôtres. Et alors donc, comment est-ce qu'il va répondre à ces attaques ? Eh bien, surprise, il pourrait choisir de se vanter de toutes les expériences extraordinaires qu'il a vécues. Mais au lieu de cela, il choisit de répondre en se vantant, eh bien, de sa faiblesse, justement. Paul est fier de sa faiblesse. Alors certes, il répond par l'absurde, il y a aussi de l'ironie derrière, d'associer la vantardise, n'est-ce pas, à la faiblesse. Mais n'empêche, il est vraiment fier de sa faiblesse. Et pourtant, il pourrait être fier de se vanter de bien des choses. Et par exemple, de l'expérience extraordinaire qu'il a vécue et dont il parle au début de ce passage. Il a été enlevé au paradis, c'est ce qu'on voit au verset 2. Et Paul a vécu certainement un événement unique dans l'histoire, un événement qu'il a été donné à aucun homme de voir. Et on voit que déjà sur le chemin de Damas, n'est-ce pas, que Christ en personne s'est révélé à Paul. Et Paul fait certainement allusion à une expérience un peu semblable à celle qu'ont vécu les prophètes dans l'Ancien Testament. Par exemple, le prophète Ésaïe, qui au chapitre 6 d'Ésaïe se retrouve en présence du trône de Dieu. Ou alors le prophète Ézéchiel, qui voit la gloire de Dieu, qui voit la gloire de Dieu, qui voit le temple de Dieu. Et encore de nombreux prophètes ont vécu des expériences extraordinaires. Et là, on le voit dans le texte, il y a quelque chose de curieux, c'est que Paul parle de cette expérience qu'il a vécue à la troisième personne. Il ne dit pas « je », mais il parle à la troisième personne. « Je connais un homme en Christ qui ?» Alors, pourquoi est-ce qu'il parle, parce que c'est bien lui qui a vécu cette expérience, mais pourquoi est-ce qu'il parle de cette expérience à la troisième personne ? Bien justement, parce qu'il ne veut pas mettre cette expérience en avant. Et nous n'allons pas nous attarder non plus sur cette expérience extraordinaire de Paul. Pour une simple raison, c'est que Paul ne veut pas s'y attarder non plus. S'il en parle, c'est pour répondre à ces super apôtres qui mettent en avant leur expérience extraordinaire. Il dit en gros, si vous voulez jouer à ça, si vous voulez jouer à vous vanter, eh bien moi aussi je pourrais jouer à ce jeu-là. Et je pourrais me vanter de choses qui surpassent complètement vos expériences. Mais il est bien conscient que c'est absurde de répondre par la vantardise. Et c'est pour ça qu'il commence au verset 1. Faut-il se vanter ? Cela ne m'est pas utile. Et on voit donc, après, comment Paul finit le passage d'aujourd'hui. Eh bien, c'est en se vantant, en étant fier de sa faiblesse. Au verset 5, « Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. » Et pourquoi est-ce qu'il ne souhaite pas donc s'attarder sur cette expérience, se vanter de cette expérience ? Bien parce que ce serait une occasion de s'enorgueillir pour lui. Ce serait une occasion, au lieu de pointer vers Dieu, de pointer vers lui-même. Il ne veut pas qu'on le considère comme plus qu'il n'est réellement. Et donc pourquoi Paul veut-il s'abstenir de se vanter ? Donc on le voit, c'est parce qu'il craint l'orgueil. Et qu'est-ce qu'il y a de dangereux finalement dans l'orgueil ? Qu'est-ce qu'il y a de si dangereux dans l'orgueil ? Pourquoi est-ce que Paul veut éviter cela ? Eh bien, c'est Calvin qui a dit qu'il y a quelque chose de particulier avec ce vice qui est l'orgueil. Et cette chose de particulière, c'est que les autres vices ont lieu dans des choses mauvaises. Mais l'orgueil est à craindre dans les meilleures œuvres. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire qu'on peut faire de bonnes choses, de très bonnes choses dans la vie, et pourtant souffrir de ce vice qui est l'orgueil. Parce qu'on va ramener les choses non pas à Dieu, mais à nous-mêmes. On va être fier de ce qu'on fait de bien, non pas en ramenant la gloire à Dieu, mais en ramenant la gloire à nous-mêmes. Et même, il peut certainement exister des dangers, même dans les témoignages. Et au lieu de ramener la gloire à Dieu, finalement, à travers cela, de ramener la gloire à nous-mêmes. Parce que comme on l'a vu dans Jérémie tout à l'heure, n'est-ce pas, le cœur de l'homme est tortueux. Et de bonnes choses, nous pouvons les tortiller et les transformer dans des choses qui sont des vices. Et c'est le cas, par exemple, de l'orgueil, qui est au plus profond de nous-mêmes. Et donc, il y a ce risque que Paul soit la star du récit, au lieu que ce soit Dieu, qui est lui-même à l'initiative de sa conversion. Dieu qui est à l'initiative de toutes les expériences extraordinaires que Paul a vécues. Et nous voyons dans la Bible, n'est-ce pas, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il rend grâce aux humbles. Et le but premier de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de se réjouir en Dieu pour toujours. Et il y a ce mal, bien sûr, de l'orgueil qui est incrusté au plus profond de nous-mêmes. Et c'est un mal bien difficile à extirper parce qu'il est très proche de notre ego, n'est-ce pas ? Et on voit ensuite, au verset 7, que pour éviter justement ce mal, ce vice, d'être rempli d'orgueil suite à toutes les expériences extraordinaires que Paul a vécues, pour justement qu'il ne soit pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires qu'il a reçues, on voit qu'il a reçu une écharde dans la chair. C'est ce qu'on voit à partir du verset 7. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors, qu'est-ce que c'est que cette écharde dans la chair que reçoit l'apôtre Paul ? Et on comprend bien que c'est une image, là. Mais qu'est-ce que ça représente, concrètement ? Est-ce que c'était une épreuve ? Comment est-ce qu'il la subissait ? Alors, le texte ne le précise pas. On pourrait émettre des hypothèses, mais le texte ne précise pas qu'est-ce que c'est que cette écharde. Et on peut émettre une hypothèse. On voit que ce qui est reproché à Paul comme faiblesse dans le texte, comme on l'a déjà vu, c'est son manque d'éloquence. C'est le fait qu'il paraissait très sévère, très énergique dans ses lettres, mais quand il était là, c'était un faible. Et c'est dit que sa parole ne méritait même pas l'attention. Et ça paraît surprenant de se dire que l'apôtre Paul manquait d'éloquence quand on voit ses lettres, n'est-ce pas ? Alors peut-être souffrait-il d'un défaut de prononciation, n'est-ce pas ? Peut-être était-il bègue ? Et ça peut paraître complètement rédhibitoire pour un homme de la stature de Paul. Imaginez-vous Paul dans les synagogues ? Imaginez-vous Paul dans les églises, devant persuader la foule et frapper d'un défaut de langage. Et on pourrait ainsi s'imaginer combien cette écharde dans la chair pourrait être un handicap pour Paul. Et combien, avec cet handicap, eh bien, le pousserait à se reposer sur Dieu, à se reposer sur la puissance du Christ et non pas sur ses propres capacités. Comme face à l'impasse, n'est-ce pas, dont on parlait tout à l'heure, de se reposer entièrement sur la puissance de Dieu dans ses discours et non pas dans sa propre performance, non pas dans ses propres dons oratoires, mais de se reposer entièrement sur la puissance de Dieu. Et on imagine à quel point ça pourrait être humiliant à chaque fois qu'il ouvrirait la bouche d'avoir ce défaut de langage, à quel point cela briserait son orgueil, à quel point cela le pousserait à se reposer sur la puissance du Christ. Pas d'autre solution là, pas d'autre voie. Non pas donc l'éloquence et la puissance des discours en eux-mêmes, mais sur la puissance du Christ. Et le manque d'éloquence qui est reproché à Paul dans la lettre aux Corinthiens nous rappelle une autre personne dans l'Ancien Testament. Il s'agit de Moïse, du prophète Moïse. Moïse qui était considéré comme le plus grand des prophètes. Et Moïse qui était le représentant du Seigneur auprès du peuple. Et pourtant, au début de son ministère, Moïse est décrit comme quelqu'un peu sûr de lui-même, en voie des difficultés pour s'exprimer. Et on voit ce que dit Moïse à Dieu dans l'Exode. « Ah Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date pas d'hier ni d'avant-hier, et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. » Un Moïse à tel point si peu sûr de lui-même qu'il demande à son frère de parler à sa place. Et si Moïse était passé par un cabinet de recrutement ou de chasseur de tête, pour le poste de porte-parole de Dieu, est-ce que vous pensez qu'il aurait été retenu? Bien certainement pas. Un homme qui s'exprime aussi mal, un homme qui est aussi peu sûr de lui-même, il aurait été certainement retoqué, recalé devant les chasseurs de tête. Moi aussi, j'ai la bouche embarrassée. Devant les chasseurs de tête. Et on l'aurait certainement envoyé en stage intensif, n'est-ce pas, oser s'affirmer ou convaincre par la parole. Mais Dieu n'a pas besoin de grands hommes, ou en tout cas grands au regard des regards humains, pour manifester sa puissance. Il ne cherche pas des super-héros. Il se plaît à choisir des hommes et des femmes en apparence ordinaire. Et Dieu se complaît dans la faiblesse des hommes pour démontrer sa puissance. Alors, on a donc parlé de cette écharpe dans la chair, et donc le fait que ce soit parce que Paul serait embarrassé, n'est-ce pas, dans son langage, parce qu'il aurait un défaut de langage, ce n'est qu'une hypothèse. C'est une hypothèse, mais ça nous permet de s'imaginer les difficultés, le handicap que pouvait représenter cette écharde dans la chair. L'apôtre Paul ne précise pas de quoi il souffrait précisément dans le texte. Et cela a un avantage. C'est un avantage qui ne précise pas de quoi il souffrait. C'est qu'on peut s'identifier à Paul dans nos propres souffrances, dans nos propres faiblesses. Et peut-être vous-même, avez-vous vos propres échardes dans la chair? Et peut-être Satan vous pousse à vous décourager face à de telles épreuves, face à de telles souffrances. Et peut-être en voulez-vous à Dieu de vivre de telles souffrances vous-même, de telles épreuves. Et la Bible ne nous apprend pas que nous sommes à l'abri de mauvaises expériences de souffrances. Nous ne sommes pas à l'abri du mal. Mais par contre, la Bible nous dit que nous sommes à l'abri du mal ultime. Elle nous dit que nous sommes à l'abri de la source de tout mal. Et c'est ça tout le sens de l'Évangile. On voit donc Dieu qui répond à la supplication de Paul. Et donc Dieu répond à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit car nous sommes à l'abri des conséquences éternelles de nos fautes. Nous vivrons l'éternité en paix avec Dieu, en Christ, à l'abri de tout mal. C'est ça la grâce de Dieu, c'est ça l'Évangile. Et cette grâce vient du Christ. Cette grâce vient du Christ. Et justement, Christ, il est dit dans Ésaïe, dans le prophète Ésaïe, n'avait ni prestance ni beauté. Un homme habitué à la souffrance, un être à l'apparence faible, de qui on détourne les regards. On n'a fait aucun cas de sa valeur. Et Dieu, en Jésus-Christ, s'est fait chair et os. Il a revêtu la faiblesse du corps humain. Et Jésus naît dans une étable, n'est-ce pas ? On ne peut pas imaginer plus sordide pour une naissance. Il était fils de charpentier. Et pourtant, c'est ce Christ, eh bien, qui nous sauve, n'est-ce pas ? C'est lui qui règne dans le ciel. Et ce qu'il a accompli, Christ, pour nous sauver, il a accompli sur la croix. La croix, là aussi, est un signe ultime de faiblesse, de défaite, d'humiliation. C'était considéré comme une honte à l'époque, comme une humiliation terrible de mourir sur une croix. Par exemple, les citoyens romains, eux, on ne leur donnait pas ce supplice. On épargnait ce supplice aux citoyens romains parce que c'était une humiliation trop forte, une honte trop forte. Et pourtant, c'est cette honte, c'est cette humiliation qui est le symbole de notre foi, n'est-ce pas, les croix chrétiennes. C'est cette croix, ce signe ultime de la défaite qui est notre salut. Nous prêchons Christ crucifié, dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La croix, considérée comme faiblesse ultime par les hommes, est la source de notre salut. C'est toute la puissance de l'Évangile. Et on voit donc ensuite Paul poursuivre au verset 9, dans la deuxième partie. Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Et Paul dit que s'il n'avait pas conscience de sa faiblesse dans sa vie, il n'aurait pas de puissance. Parce que c'est la faiblesse, parce qu'encore une fois, c'est la conscience de notre impasse sans Dieu qui nous pousse à crier à Dieu, qui nous pousse à compter sur Dieu, à mettre notre confiance en Dieu. Il s'agit donc là d'être conscient de notre faiblesse en tant qu'être humain. Et cette faiblesse nous montre aussi cet état de faiblesse, la conscience de notre état profond de faiblesse, du fait qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes par nos propres forces. C'est cette conscience de cette faiblesse qui nous montre que la seule raison pour laquelle Dieu nous aime, ce n'est pas à cause de notre justice, ce n'est pas à cause de ce que nous faisons par nos propres forces, mais c'est à cause de la justice de Christ. C'est à cause de ce que Christ fait, à cause de sa puissance dans nos vies. C'est à cause de ça que nous sommes sauvés. Et l'orgueil nous fait donc pointer vers nous-mêmes, mais la reconnaissance de notre faiblesse nous fait pointer sur Christ, sur sa puissance. C'est lui qui nous sauve. Et on voit que la puissance est dans la parole de Christ. C'est elle qui agit par le Saint-Esprit. C'est elle qui change nos cœurs si durs. Et reconnaissons donc encore ce matin notre faiblesse et acceptons de capituler devant le Christ. C'est lui notre gloire. C'est lui notre gloire et l'apôtre Paul le rappelle lui-même un peu plus tôt dans sa lettre de 2 Corinthiens. On voit ça au chapitre 4, au verset 5 à 7. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes donc comme des vases de terre, n'est-ce pas ? Et cette conscience que nous sommes des vases de terre nous pousse à nous reposer sur la puissance du Christ. Et l'apôtre Paul poursuit, C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les angoisses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors on voit que ce qui va motiver Paul, justement, ce qui va motiver Paul pour affronter toutes les épreuves qu'il va subir, eh bien c'est cette conscience de dépendre de la puissance du Christ. Il fait tout cela pour Christ, parce qu'il se sait en Christ pour l'éternité. Et comment Paul peut-il ainsi se réjouir des outrages? Comment il peut se réjouir de la persécution qu'il subit? Et sûrement parce que la puissance de Dieu se révèle à travers cette faiblesse apparente, à travers cette persécution. Et si on regarde là maintenant la planète, n'est-ce pas, si on regarde le monde, on a quand même quelque chose d'étrange. On voit que souvent, c'est dans les pays où les chrétiens vivent le plus de persécutions, et bien que la foi chrétienne est la plus dynamique, et où le christianisme se répand le plus de manière extraordinaire, avec des signes et des prodiges. Et si on prend, par exemple, la Corée du Nord, la Corée du Nord qui est en tête du classement mondial de la persécution des chrétiens, on sait qu'il y a des dizaines de milliers de chrétiens en Corée du Nord, alors que des dizaines de milliers de chrétiens sont internés dans des camps simplement pour leur foi. Simplement, si on proclame qu'on a foi en Jésus, on risque la prison et on risque la mort. Et beaucoup sont torturés, beaucoup sont exécutés à cause de cela. Beaucoup de familles sont déchirées à cause de cela. Et pourtant, malgré cela, la foi chrétienne est si dynamique dans ce pays, fleuri dans ce pays. Et il y a de nombreux autres exemples, et vous en connaissez certainement, où l'Église prospère dans la persécution. Alors, c'est pas pour ça qu'on doit souhaiter la persécution, c'est pas pour ça qu'on doit souhaiter cette terrible épreuve, cette écharde dans la chair. Mais cela montre que Dieu agit dans la faiblesse. Dieu démontre sa puissance dans la faiblesse, dans la persécution. Et qu'est-ce qui nous fait tenir? Qu'est-ce qui fait tenir tous les chrétiens dans cet état terrible de persécution? Bien, c'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc que le meilleur est à venir. Qu'en Jésus-Christ, nous avons l'espérance, nous avons la vie éternelle. Qu'un jour, il séchera toute larme de nos yeux et que nous vivrons pour l'éternité en paix avec lui. Les souffrances de la vie présente donc aucune mesure avec la gloire qui est à venir. Et la joie, la paix qui nous inonde, même si nous sommes dans la persécution, bien sûr, tranche avec la morgue de tout ce qui nous entoure et de ses persécuteurs. Et on voit donc ce passage, n'est-ce pas? Et on va relire à partir du verset 5. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois. J'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, pour le Christ. Car c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et nous allons prier. Bien Père, nous te remercions pour ta parole, qui est si forte. Et nous sommes conscients que c'est pas par la persuasion et par l'éloquence de mes paroles que tu nous changes, mais par la puissance de ta parole, par la puissance de ton Saint-Esprit. C'est quand nous sommes conscients de notre faiblesse, de notre dénuement, c'est là que ta puissance se révèle avec force, Seigneur. Et que tu nous parles ce matin, que tu nous transformes ce matin par la puissance de ta parole. Que nous soyons conscients de notre faiblesse, que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Et Père, par ton Saint-Esprit, agis pour que nous placions notre confiance en toi, notre confiance en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et certainement que beaucoup d'entre nous vivent des échardes dans leur vie, des échardes qui leur touchent au plus profond d'eux-mêmes. Et nous te prions que nous ne cédions pas au découragement, te prions que nous ne cédions pas à la voix de Satan, du tentateur, mais que ces épreuves terribles, nous apprennent à nous reposer sur toi, nous apprennent à nous reposer sur la puissance du Christ, la puissance pour le salut de quiconque croit, la puissance qui nous donne la vie, qui nous donne la lumière pour l'éternité. Que nous placions ce matin encore notre confiance en Jésus-Christ, Seigneur, et que nous soyons dans la joie de le connaître, que nous soyons dans la joie parce qu'il nous aide à surmonter toutes les épreuves jour après jour, durant la semaine, au travail ou ailleurs, et que nous partagions cette joie, que nous soyons des témoins de cette joie extraordinaire que nous avons en toi de te connaître, d'être assurés en toi pour l'éternité, que ce n'est pas dans ce que nous faisons que nous sommes sauvés, mais que nous sommes sauvés par ton œuvre. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur, pour l'éternité. Que nous marchions pour ta gloire, que nous marchions pour pointer non pas à nous-mêmes, mais pour pointer vers toi, Seigneur, pour l'éternité. Amen.